Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui vous parle de recherche dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, on va aborder ce qui pourrait être une révolution dans le domaine de la chirurgie vasculaire. Deux invités, Emmanuel Monfrini et Johan Pététin. Le premier est professeur, le second est son ancien élève et aujourd'hui maître de conférence à Télécom Sud Paris. Bonjour, vous êtes tous les deux experts en mathématiques appliquées. Qu'est-ce qui vous destinait à ce domaine ?
La première chose, c'est que quelqu'un m'a présenté un démonstrateur d'algorithmes de tracking qui m'a donné envie de comprendre les mathématiques qu'il y avait derrière. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais un professeur durant mes études d'ingénieur assez sympathique et qui s'appelait, je crois, Emmanuel Monfrini.
Non, la ville flatteur. De mon côté, en fait, ça remonte à c'était au siècle dernier. J'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais petit. Et j'avais une idole, le champion du monde, un type incroyable. Et un jour, un ordinateur a battu le champion du monde. Et là, ce jour-là, je me suis dit, si un ordinateur peut battre le champion du monde, il faut absolument que j'aille faire des maths pour mieux comprendre les ordinateurs.
Vous travaillez sur l'intelligence artificielle appliquée à la chirurgie vasculaire. C'est ça qui nous intéresse. Ça consiste en quoi ?
Nous sommes spécialistes de statistiques appliquées, c'est-à-dire que nous travaillons en amont, nous développons des algorithmes et nous appliquons ces algorithmes à des problématiques industrielles et en particulier à la question de la segmentation d'imagerie médicale. Donc pour nous, c'est un point extrêmement important. Comment faire en sorte de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un patient sans avoir besoin de l'ouvrir ? Et donc c'est tout le sens des informations que je me charge de fournir à Johan.
Alors moi, pour vulgariser, ce que je cherche à faire, c'est à extraire de l'information cachée à partir d'observations, mais pas n'importe quelles observations. C'est ce qu'on appelle typiquement des séries temporelles, qui sont des signaux ou des données qui évoluent et qui sont corrélées dans le temps.
Quel est le lien, Johan, entre ce que vous faites et l'intelligence artificielle ?
Alors moi, j'essaye actuellement de faire le pont entre les modèles statistiques que l'on connaît bien d'un côté et l'intelligence artificielle. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi chercher à faire ce pont ? Eh bien, tout simplement pour, d'une part, comprendre les bons résultats des modèles en intelligence artificielle, les interpréter et, à terme, éventuellement, les améliorer. Typiquement, un avantage de l'approche statistique que l'on utilise est que l'on va être capable de quantifier notre erreur dès lors que l'on fait une prédiction ou une estimation.
Vous travaillez sur la segmentation d'images médicales, mais sur quoi plus précisément, Emmanuel ?
Ce qui nous intéresse en particulier en ce moment, c'est l'imagerie micro-CT. Alors qu'est-ce que c'est que le micro-CT ? Le micro-CT, c'est un petit scanner pour scanner de petites choses, mais avec une très grande résolution, une très grande performance dans l'acquisition d'informations. Et nous, ce sur quoi nous travaillons avec nos partenaires sur ce projet, c'est sur l'acquisition en micro-CT d'artères fémorales à l'intérieur desquelles on peut éventuellement trouver des stents. Alors les stents, c'est censé sauver la vie des gens. Sauf qu'effectivement, quand un stent dysfonctionne, on a la mauvaise surprise de mourir ou d'être obligé, typiquement pour un stent d'artère fémorale, d'amputer le patient.
Pour mener ces travaux, je suppose que vous travaillez en partenariat.
Oui, alors nous collaborons beaucoup avec la région Grand Est et Strasbourg, avec un chercheur en traitement du signal qui s'appelle Christophe Collet et qui est actuellement directeur de Télécom Physique Strasbourg. Et puis nous venons de commencer une thèse avec une étudiante de Télécom Sud Paris qui s'appelle Catherine Morales et qui est financée par Carnot et qui est amenée en ce moment à collaborer étroitement avec le GPROMED de Strasbourg.
Emmanuel, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de cette collaboration avec GPROMED, hein, le nouveau nom de GPROVAS ?
Ça fait une quinzaine d'années que nous travaillons avec Christophe Collet et au moment où le GPROVAS a eu besoin de faire appel à des gens de confiance pour travailler sur la base de données unique au monde d'explants d'artères fémorales dont je parlais tout à l'heure. Donc les explants, hein, c'est effectivement un morceau d'artère qu'on coupe et qu'on conserve ensuite au frais pour pouvoir s'entraîner à améliorer la qualité de nos algorithmes, notamment de segmentation. Et donc quand le GPROVAS a eu besoin de personnes de confiance pour travailler sur l'exploitation de cette base de données, le GPROVAS s'est naturellement tourné vers Christophe Collet et nous.
C'est peut-être là qu'il y a un début de révolution dans la chirurgie vasculaire ?
Au départ, il y a les petits explants d'artères fémorales. Au bout, il y a un jumeau numérique du patient, c'est-à-dire on est capable de simuler entièrement le patient sans l'ouvrir et de centrer entièrement les actes médicaux et les traitements sur le patient plutôt que de faire comme d'habitude. On sait qu'en moyenne, les gens réagissent de telle manière à telle chose et donc on donne à tous les patients une sorte de traitement moyen. Nous, notre objectif, c'est vraiment de développer une chirurgie et une médecine orientées patients.
Une médecine centrée sur le patient grâce à l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à Johan Pététin.
J'allais le dire.
Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est dès lors qu'Emmanuel va me fournir une image segmentée et propre, c'est sur l'extraction de features, par exemple, qui vont me permettre de déterminer si oui ou non il y a présence d'une maladie et comment peut-être amener à évoluer cette maladie au cours du temps. Et puis il y a un deuxième aspect qu'on a commencé à évoquer, c'est la reconstruction d'images. On a d'un côté donc des images micro-CT de bonne qualité et haute résolution, mais auxquelles on a difficilement accès. Et de l'autre, des images scanners que l'on peut acquérir directement à l'hôpital, mais qui ont une résolution moins bonne. Et la problématique qu'on se pose, c'est de savoir si on peut reconstruire artificiellement l'image micro-CT en haute résolution à partir de l'image scan basse résolution.
Quelle est l'originalité de vos travaux ?
Alors, il y a plusieurs originalités dans nos travaux, mais comme l'a dit Johan tout à l'heure, au départ, nous sommes des matheux. D'où notre travail, c'est de développer des algorithmes. Alors, quel est notre objectif quand on développe un algorithme ? C'est de pouvoir prétendre à mesurer l'erreur qu'on commet, diminuer les temps de calcul en faisant de préférence des calculs déterministes, mais pour que ça modélise la réalité, il faut qu'on soit capable d'introduire des corrélations de meilleure qualité au fur et à mesure que les traitements se complexifient.
Pour compléter, donc l'originalité, c'est que, comme l'a dit Emmanuel, c'est qu'à la base, on utilise vraiment des algorithmes très généraux qui peuvent être utilisés pour diverses applications. Mais dans le cadre de cette application précise, ce à quoi on doit réfléchir en priorité, ce sont les pré-traitements particuliers que l'on doit faire afin que tout se passe bien pour les modèles sur lesquels on a l'habitude de travailler.
Ok, pour la partie théorique. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la segmentation des stents ?
Nous avons vraiment affaire à un problème très complexe parce qu'un stent à l'intérieur d'une artère, lorsqu'il reçoit les rayons du scanner ou du micro-CT, il renvoie la lumière dans tous les sens. Et donc l'acquisition qu'on fait de l'image est extrêmement difficile à interpréter, même pour un œil humain. Et donc nous avons défini un certain nombre d'algorithmes. Alors évidemment, les algorithmes étaient mathématiques au départ, mais pour pouvoir aborder des cas pratiques, il a fallu qu'on ait des modalités de pré-traitement, des modalités de post-traitement pour fournir à Johan quelque chose sur lequel il va pouvoir échanger avec les médecins pour mettre au point son intelligence artificielle.
Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que vous estimez que vous avez fait progresser les connaissances ?
Pour l'instant, on a développé des modèles assez originaux, donc qui mêlent les modèles statistiques avec lesquels on avait l'habitude de travailler et des algorithmes de type intelligence artificielle, tout ce qui touche au deep learning, c'est-à-dire à l'apprentissage profond. Et dans le cadre de la segmentation d'images avec des bruits complexes, on a montré qu'il y avait une amélioration de l'état de l'art, du moins sur des images synthétiques pour l'instant, par rapport aux modèles avec lesquels on avait l'habitude de travailler jusqu'ici.
On a évidemment plusieurs articles publiés dans des conférences et dans des revues médicales, mais c'est vrai que pour nous, la satisfaction immédiate, c'est quand nos partenaires du GPROMED ou du CVPass Institute, dirigés par celle qu'on appelle la papesse du stent Renu Virmani, c'est quand nos partenaires sont contents. Hein. C'est voilà, quand on voit un petit peu de crépitement dans leurs yeux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive à faire des choses aussi sympas, je ne vous cacherai pas que pour nous, c'est extrêmement gratifiant.
On comprend votre enthousiasme. La prochaine étape, c'est l'utilisation par l'hôpital. Et ça, c'est pour quand ?
Sur la partie théorique, il reste actuellement à peu près un an et demi de thèse. Donc on peut d'abord espérer que d'ici 2 ans, on ait des premiers résultats qui soient publiés.
Et une fois que la thèse est terminée, que les articles sont publiés, on va dire qu'il y a une phase de 3 ans de développement, d'industrialisation qui permet ensuite l'utilisation généralisée de ces infos. Mais clairement, nos partenaires qui sont des universitaires, même s'ils sont également médecins par ailleurs, utilisent les versions qu'on a développées actuellement pour leurs patients.
Et quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans ces travaux ?
C'est de réussir à se démarquer scientifiquement d'autres équipes qui travaillent sur des sujets assez proches, parce qu'il faut savoir que toutes les thématiques liées à l'intelligence artificielle attirent beaucoup de chercheurs en ce moment, en particulier des chercheurs issus de grands groupes comme Facebook, Google, etc., qui n'ont pas hésité justement à débaucher des pionniers universitaires sur cette thématique de l'intelligence artificielle.
J'ai envie de dire que le plus grand défi dans ce type de collaboration, c'est que des gens qui ne parlent pas forcément la même science réussissent à s'entendre. C'est vraiment la révélation de cette collaboration. On est vraiment dans une collaboration où tout le monde écoute tout le monde, où tout le monde complète tout le monde. Et c'est vraiment un vrai plaisir d'avancer ensemble. On avance beaucoup plus vite que si effectivement il y avait, par exemple, un médecin qui nous faisait une commande sur un logiciel qui ferait un truc particulier qu'il aurait décidé lui-même. Là, on est en permanence force de proposition les uns pour les autres. C'est vraiment grisant, quoi.
Et imaginez, demain, vous obtenez un financement plus conséquent. Quelles sont vos premières mesures ?
L'idée, ça serait sûrement de renforcer un petit peu les ressources humaines pour venir accompagner les chercheurs et les thésards. Je pense en particulier à tout ce qui touche à la partie développement logiciel pour l'implémentation efficace des algorithmes que l'on souhaite développer.
Et finalement, avec le recul, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce partenariat inhabituel inter-sciences ?
C'est un vrai plaisir de pouvoir développer des maths et du signal avec des résultats stimulants, avec des motivations pour nos étudiants.
L'avantage de ce type de collaboration, c'est qu'on est amené à faire des allers-retours fréquents donc, avec les chercheurs qui sont issus d'un autre domaine et que leurs besoins, leurs exigences va sûrement nous amener à développer des nouveaux outils théoriques qui auront probablement à terme d'autres applications que l'application médicale sur laquelle nous travaillons actuellement.
Merci Emmanuel Monfrini et Johan Pététin pour cet entretien que vous retrouvez sur le site internet de Télécom Sud Paris et les plateformes de streaming. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à rejoindre Science Num, le podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Prochain épisode avec Titus Zaharia, on parlera intelligence artificielle et télévision. À bientôt.